pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour. Alors que le Salon international de l'agriculture referme ses portes demain à Paris, comment expliquer qu'en 2018, une personne sur trois souffre toujours de malnutrition? Un chiffre qui est d'ailleurs reparti à la hausse en 2017 à cause des conflits et des changements climatiques. Et ce paradoxe qui persiste, sur les 800 millions de personnes qui souffrent de la faim, l'essentiel sont des petits paysans. C'est bien la preuve que nous nous sommes trompés de modèle agricole. Alors si au lieu de faire plus, plus grand, plus vite, plus rentable, il fallait tout simplement faire mieux, relocaliser les productions, travailler à taille humaine, miser sur l'ingéniosité des écosystèmes et repenser les méthodes de culture et d'élevage. Ce sont les principes de l'agroécologie, une technique très pointue qui se développe désormais sur tous les continents.
C'est pas du vent sur RFI.
Avant de donner la parole à nos invités, j'aimerais vous faire écouter quelqu'un que tous nos invités connaissent ici. Il s'agit de l'agronome Michel Griffon, que nous avons reçu dans C'est pas du vent. Il nous explique comment nous en sommes arrivés là.
On s'est trompé, on se rend compte après qu'on s'est trompé. Il a fallu une trentaine d'années pour s'en rendre compte. D'abord, il y a eu le pétrole pas cher qui a entraîné le machinisme, le labour profond qui détruit la matière organique, comme ça a très bien été dit, et qui entraîne le tassement. Puis pour détasser les sols, il faut labourer plus profond, et pour labourer plus profond, il faut des tracteurs plus puissants. Puis on est dans un cercle vicieux duquel on a du mal, lorsqu'on conduit son tracteur, à prendre conscience. De même que les engrais, les nitrates en soi, les nitrates existent à l'état naturel dans le sol, mais à partir du moment où on en met de très très fortes doses, à partir du moment où il faut deux fois de l'énergie pour faire du nitrate, il faut de la matière première qui est le gaz naturel, et il faut beaucoup d'énergie pour le transformer en ammoniac et puis en nitrate. C'est parce que les prix de l'énergie sont faibles que c'est permis. Et de facilité en facilité, on a débouché sur une agriculture polluante. Et enfin, les pesticides, ils ont constitué une formidable assurance pour les agriculteurs, assurance de revenus, assurance de récolte et tranquillité. Et donc, alors moi, je ne leur jette pas la pierre, mais il faut maintenant changer complètement de cap, bien évidemment.
Bien évidemment, reste à le faire, et c'est là où ça devient compliqué. Bonjour Bruno Rapidel.
Bonjour.
Vous êtes agronome au CIRAD, le Centre international de recherche agronomique pour le développement, et vous avez travaillé pendant 10 ans en Amérique centrale, donc vous êtes aussi un homme de terrain hein, sur l'agroforesterie et notamment sur le café. Comment est-ce que vous réagissez à ces propos de Michel Griffon qui dit « on s'est trompé, maintenant il faut faire autrement ».
Alors, on s'est trompé, c'était aussi toute une époque, c'est-à-dire on s'est trompé, on a quand même eu des succès absolument fulgurants, ça a très bien marché pour nourrir une population qui augmentait, et effectivement, après je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Michel, c'est-à-dire que on a choisi des voies dont on se rend compte 40 ans après qu'elles ont entraîné un certain nombre de nuisances, et maintenant nous avons les moyens aussi, grâce à ce progrès que nous avons mené, nous avons les moyens de choisir d'autres voies. Alors, c'est pas très simple, mais c'est ce qu'on essaye de faire.
La recherche a évolué, du coup, permet aujourd'hui, par exemple, de mettre en avant cette transition agroécologique dont nous allons parler.
Eh bien, nous y travaillons.
Bonjour Marie-Cécile Thirion.
Bonjour.
Alors, vous êtes adjointe à la division agriculture, développement rural et biodiversité de l'Agence française de développement. Vous partagez ce constat. L'Agence française de développement accompagne le développement de l'agriculture dans les pays du Sud depuis de nombreuses années. Et vous partagez ce constat de Michel Griffon?
Oui, on le partage, bien entendu. Et comme l'a dit Monsieur Rapidel, on a été aussi embarqués, nous, dans la première révolution verte, parce qu'on y croyait, parce que les résultats étaient intéressants. Et comme la recherche, on fait le constat qu'on arrive un peu au bout du chemin et qu'il faut prendre d'autres voies. Nous, on est en premier lieu en accompagnement des acteurs du Sud, donc on est à leur écoute. C'est une transition qui est technique, qui est scientifique, mais aussi humaine. Et il va falloir convaincre nos partenaires de ces nouvelles voies aussi, qui peuvent les amener à sortir de la pauvreté, car vous avez signalé les enjeux de malnutrition. Mais il faut aussi se rappeler que l'agriculture, c'est dans beaucoup de pays une trappe à pauvreté. C'est une activité que les jeunes ne veulent plus rejoindre. Donc il va falloir aussi convaincre.
Oui, ça c'est vrai que c'est un enjeu très important et on va en parler. à vos côtés Pablo Titonel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le coordinateur d'un programme sur la gestion des ressources naturelles et de l'environnement au sein de l'INTA, qui est l'Institut de Recherche Agronome Argentin. Alors je vous laisse présenter ce programme qui lui aussi est assez représentatif de cette transition.
Oui, effectivement, c'est un programme dans lequel on va s'impliquer sur des stratégies pour s'adapter aux changements climatiques. On va étudier les changements climatiques et les stratégies pour s'adapter. On travaille sur la biodiversité, sur la relation entre les pratiques agricoles et la biodiversité, soit la conservation ou bien l'utilisation de la biodiversité pour une production, par exemple, agroécologique. On travaille aussi sur les impacts environnementaux en général des pratiques agricoles et aussi sur la planification environnementale du territoire.
Preuve que l'Argentine se pose des questions quand même sur son modèle agricole. L'Argentine a beaucoup misé sur notamment le soja transgénique suite à la crise économique des années 90. Et aujourd'hui, c'est un modèle qui montre ses limites.
En fait, c'était un package de technologies qui comprenait les OGM, mais aussi les herbicides qui vont avec. Et donc, ça facilitait beaucoup les choses pour les agriculteurs, ça les rassurait. Mais peut-être... Là, il faut aussi mentionner que c'est pas seulement nous qui nous sommes trompés, nous les agronomes, nous les gouvernements, mais aussi, il faut pas ignorer la pression des compagnies multinationales sur ce qui s'est passé, soit des compagnies de semences, de pesticides, mais aussi des compagnies de l'alimentaire en général.
Oui, bien sûr, qui, elle, avait trouvé un filon pour se faire beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, l'Argentine, c'est compliqué, parce qu'au niveau, on a fait des reportages dans cette émission, où on entend les paysans qui disent « mais nous, on n'en peut plus, parce qu'en fait, il faut qu'on rajoute sans arrêt des intrants.
Oui, voilà.
La terre est morte, les rendements ne sont plus là. »
En fait, il y a les paysans qui ont des coûts de production et des risques de production énormes à cause de cette dépendance énorme des pesticides. Il y a le public qui ne veut pas manger des produits qui sont peut-être contaminés par des pesticides. Il y a des gens qui habitent dans des petites villes dans la campagne qui voient les impacts environnementaux de l'utilisation des pesticides dans les campagnes. Et donc, c'est un débat assez fort en Argentine et qui nous amène à proposer des alternatives.
On va parler de ces alternatives. Heureusement, il y en a. Bonjour Aurélie Toilier.
Bonjour.
Vous êtes agronome, chercheuse sur l'innovation dans l'agriculture pour le CIRALD. Alors, vous êtes basée au Burkina Faso depuis 5 ans maintenant. Alors, c'est un pays qui, là aussi, recherche son modèle agricole.
Bon, absolument. Disons qu'au Burkina Faso, on peut dire qu'il y a plusieurs voies d'écologisation qui sont déjà en marche. D'écologisation de l'agriculture sous des modèles différents. L'agriculture bio est effectivement en émergence. Il y a aussi beaucoup d'efforts qui sont faits au niveau des systèmes de production conventionnels, notamment basés sur le coton, qui cherche à améliorer les performances en mobilisant des techniques agroécologiques. Et puis, il y a une problématique très différente qui est celle du Sahel, avec des contextes de production très contraignants. Donc là, c'est une problématique différente où l'enjeu, c'est vraiment de créer des systèmes innovants, des jardins agroforestiers qui vont mobiliser, par exemple, des techniques d'irrigation goutte à goutte, donc qui va nécessiter de l'innovation en termes de matériel agricole et de façon d'agencer beaucoup de productions différentes sur des espaces très restreints. Donc on a trois voies d'écologisation différentes qui se reposent toutes sur des moteurs différents. C'est-à-dire les motivations, les choix qui sont faits le sont pour des raisons différentes. C'est pas forcément parce qu'on veut plus d'environnement, mais c'est aussi parce que, par exemple, les producteurs n'ont pas suffisamment accès à des intrants de synthèse. Donc, par défaut, il faut mobiliser des ressources, des processus écologiques et donc s'intéresser de plus près à l'agroécologie pour augmenter les performances des systèmes de production conventionnels.
Mais c'est peut-être leur chance, finalement.
On peut voir ça comme une chance, effectivement. C'est là une chance de développer tout de suite peut-être un modèle différent de ceux qui ont été développés au Nord. Mais ça nécessite de l'accompagnement, beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'innovation, pas que technique, également organisationnelle sur la façon dont les organisations de producteurs, les conseillers agricoles peuvent accompagner ces voies d'écologisation. Et ça nécessite donc des transformations des individus et des organisations dans leurs compétences, dans leur façon de travailler ensemble, leur façon de collaborer, d'innover. Donc le CIRAD développe plusieurs programmes de recherche pour expérimenter des dispositifs d'accompagnement de l'innovation sous ces différentes formes.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Ce qu'on
qu'on peut souvent reprocher à l'agribusiness, c'est la préférence à un taux de profit à court terme, c'est-à-dire imposer à leurs agriculteurs des produits un peu standards, alors que l'agroécologie, c'est précisément au contraire prendre en compte les spécificités de chacun des petits pays, de chacun des agroécosystèmes, comme on dit dans notre jargon, et fabriquer des produits de qualité, toute qualité confondue, gustative, nutritionnelle et environnementale sur ces terroirs.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
L'agronome Marc Dufumier dans C'est pas du vent sur RFI. Nous parlons de la nécessité aujourd'hui pour les pays en développement d'innover dans le domaine agricole pour ne pas reproduire les erreurs des pays industrialisés dont les modèles sont à bout de souffle. La solution serait donc de miser, on en a parlé avec nos invités, sur une agriculture écologiquement intensive. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Les explications là aussi, et je vous dirai pourquoi, de l'agronome Michel Griffon.
C'est en fait une définition qui vous allez comprendre assez facilement. Par exemple, en prenant l'Inde, on dit que l'Inde est intensive en main-d'œuvre parce qu'il faut beaucoup de main-d'œuvre pour produire une tonne de céréales. On dit que notre agriculture est intensive en chimie parce qu'il faut beaucoup de produits chimiques, engrais, produits phytosanitaires pour produire une tonne de blé. Eh bien, on peut considérer qu'on peut faire une agriculture intensive en écologie. Parce que l'écologie, ce sont ce qu'on appelle des fonctionnalités écologiques. Alors j'en donne rapidement un premier exemple, qui est celui de la lutte biologique. On observe dans la nature que beaucoup d'insectes se nourrissent d'autres insectes. Il y a des couples proies-prédateurs, où il y a des virus qui attaquent spécifiquement tel ou tel insecte, des champignons qui parasitent tel ou tel insecte. Et quand on multiplie ça à l'infini, on se rend compte qu'il y a un gisement potentiel d'utilisation de la nature en se passant progressivement des produits phytosanitaires, qui est intéressant. C'est une application donc de la lutte biologique. Mais on peut prendre un autre exemple très rapide, qui est que nous n'utilisons que trop peu la lumière solaire, parce que toute la vie vient du soleil. Et par exemple, dans beaucoup de cas, l'agriculture se fait sur un sol nu, et la terre déteste, entre guillemets, un sol nu. Les écosystèmes sont faits pour qu'il y ait une couverture végétale en permanence, utilisant en permanence la lumière du soleil, utilisant, il faut le rappeler, le gaz carbonique de l'atmosphère, qui est une calamité pour l'effet de serre, mais qui est un bonheur pour la production de biomasse. Et si on peut faire en sorte qu'à tout moment, qu'à tout instant, rien ne soit perdu en matière de lumière solaire, que tout ce qui pousse soit utilisable, eh bien, on pourrait augmenter facilement de 30 à 40% la production de biomasse. Et cette biomasse se décompose, elle donne de la matière organique. Cette matière organique donne la fertilité au sol. Et vous voyez que ça fait une boucle vertueuse. Donc, il y a environ une trentaine de fonctionnalités de cet ordre qui, combinées les unes aux autres, peuvent faire exprimer à la nature un potentiel beaucoup plus intéressant que ce qu'elle exprime actuellement. C'est ce qu'on appelle l'écologie intensive.
Alors, si j'ai décidé de donner à nouveau la parole à Michel Griffon, c'est parce que c'est lui qui a inventé ce concept d'écologie intensive qui a surpris un petit peu au départ. Ah, vous dites non, ce n'est pas lui qui l'a inventé.
Peut-être ici en France, Michel, c'est le premier qui a parlé de ça, mais en fait c'est un concept qui est dans la littérature internationale depuis quelques temps, notamment dans une vingtaine d'années, dans les années 90, Katzmann de l'université de Nebraska publié sur l'agriculture écologiquement intensive.
En tout cas, c'est Michel Griffon qui l'a vulgarisé en France.
Oui,
ça c'est, on peut quand même lui reconnaître ça. Bruno Rapidel, vous êtes d'accord?
Ah oui, bien sûr. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Michel.
Oui, parce que du coup, ce serait la solution, cette agriculture écologiquement intensive.
La solution, on n'en est pas sûr.
Ah.
Sans aucun doute, une des solutions, en tous les cas, le CIRAD a fait ce pari-là depuis une bonne quinzaine d'années déjà. Après, il est très probable que dans le futur, il y aura plusieurs formes d'agriculture qui cohabiteront, en tous les cas, nous l'espérons. Mais certainement, c'est une des solutions.
Mais c'est tout un écosystème à mettre en place. Marie-Cécile Thirion, vous disiez, il faut convaincre, c'est difficile.
Je pense qu'il faut convaincre, car en face de nous, on a des gens qui sont quand même dans des situations, que ce soit les groupements de producteurs, que ce soit les responsables politiques, qui sont dans des situations tendues. Et donc la prise de risque, qui est liée à tout changement de pratique, est bien sûr anxiogène. Et Alors bien sûr, on l'a dit, on espère que c'est une des solutions, peut-être pas la solution, mais en tout cas une des solutions, et on y croit. Mais la difficulté, c'est ce passage, hein, c'est de démontrer que ça peut être une solution. Or, avant de démontrer que c'est une solution, vous prenez un risque. L'agriculture, c'est une activité déjà extrêmement risquée. On le sait, il y a le risque climatique, il y a le risque prix, il y a le risque ravageur. Donc l'agriculteur est déjà dans une démarche de gestion du risque extrêmement importante. Hein. Je pense que c'est une des activités les plus risquées, en tout cas largement répandues. Leur demander de changer de pratique, c'est à nouveau prendre un risque. Or, jusqu'à présent, on leur proposait des solutions techniques qui visaient à démontrer très très rapidement une baisse de ce risque. Vous mettez du pesticide, le ravageur disparaît, votre production, elle est sauvée. Maintenant, vous leur dites, ben, il va falloir recréer de la fertilité du sol. Ça va vous prendre 2-3 ans. Il va falloir mettre en place des arbres qui vont enrichir le sol, qui vont protéger votre production. Ça va me prendre quelques années. Il va falloir peut-être mettre en place différentes modalités de gestion du ravageur. Pour ça, il va falloir mettre certaines plantes autour de votre parcelle et certaines plantes à l'intérieur de votre parcelle. Et vous allez voir, ça va marcher. Je pense que tout ça, il faut le démontrer un petit peu, parce que beaucoup de producteurs n'ont pas ce luxe de pouvoir prendre le risque de ne pas avoir de récolte à la fin de la saison. Ils sont déjà en difficulté pour fournir de quoi se nourrir. Vous avez cité l'augmentation du nombre de personnes en insécurité alimentaire. On sait qu'une grande partie de cette population est en milieu rural, vit de l'agriculture. Et donc, c'est pour ça que je soulignais le fait qu'on est convaincu que c'est une des solutions, mais il faut qu'on arrive à le démontrer, et à le démontrer très, très concrètement. Et l'autre difficulté, c'est ce que soulignait Aurélie, c'est que l'agroécologie, c'est pas une solution, c'est pas une méthode, c'est plein de méthodes adaptées à une diversité de situations. Et donc, on est vraiment confronté à une grande difficulté pour démontrer, puisqu'on n'a pas une solution technique pour tout le monde.
Alors, ces différentes méthodes, on en parlera plus en détail dans la deuxième partie de l'émission, mais Bruno Rapidel, c'est justement le rôle du CIRAD, finalement, avec vos agronomes dans les différents pays où vous êtes présents, de démontrer sur des parcelles que ça marche pour convaincre.
Alors, de démontrer, certes, et donc on travaille beaucoup à tout ce qui est l'évaluation des systèmes de culture, et c'est un domaine de recherche qui est extrêmement complexe, parce que selon comment vous évaluez un système de culture, une manière de produire, qu'est-ce que vous évaluez dans cette manière de produire, vous allez arriver à des choix qui vont être complètement différents. C'est-à-dire que si, par exemple, vous évaluez exclusivement la productivité, la quantité de produits, vous avez une solution, une manière de produire qui est préférable. Si vous décidez d'évaluer l'impact de cette manière de produire sur la santé humaine, vous pouvez arriver, ou si vous intégrez les coûts en termes de santé humaine sur le choix de la solution, vous pouvez arriver à des solutions complètement différentes. Donc la manière d'évaluer, c'est vraiment un grand champ sur lequel on travaille. C'est extrêmement important. Après, on travaille aussi à préparer les conditions pour faire que ces solutions soient plus faciles à mettre en œuvre. C'est-à-dire que, imaginez l'effort qui a été fait pendant des années et des années pour produire de nouvelles variétés, pour que, dans le cadre de cette révolution verte, qui a très bien fonctionné, comme je le disais tout à l'heure, toutes ces variétés, elles ont été élaborées pour être cultivées dans un certain nombre de conditions qui n'étaient pas essentiellement agroécologiques. Donner son potentiel, ouvrir son potentiel à l'agroécologie, ça veut dire réfléchir à d'autres stratégies d'amélioration variétale pour produire des variétés qui soient adaptées à ces autres conditions. Et donc, il y a énormément de choses à faire en termes de recherche encore, je crois.
Alors, vos deux institutions, le CIRAD et l'AFD, mènent justement un ensemble de recherches et d'essais en grandeur réelle pour documenter la capacité de l'agroécologie à représenter une alternative économiquement et socialement viable par rapport au modèle conventionnel d'intensification. Nous vous en ferons découvrir certaines dans un instant, ce sera juste après le flash d'info. À tout de suite.